nous voici, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, à 3. C'est pas le diable à 4, si, si, parce qu'il y a le technicien Michael, on est dans le petit studio, et je vous donne à imaginer que je suis également avec Franz Berko.
Fran.
Mais j'adore te dire Franz. Bon. Je t'appelle toujours Franz.
C'est joli.
Dans ma tête, alors tu t'appelles Fram, mais pourquoi t'as choisi ce nom d'ailleurs?
Parce que je trouvais que ça sonnait très bien avec Berko.
Voilà. Eh bien voilà, donc Fram... Bien avec Berko, on fait comme on veut. Pour présenter un livre, c'est quel livre?
Califrane.
Califrane, ah bah oui, Califrane. Bah oui, Cali comme calligramme, Califrane, oui.
Exactement.
C'est de l'Apollinaire adapté. Et puis, il y a ici, alors, le rendez-vous direct, c'est-à-dire le rendez-vous, c'est le nom de famille, direct, c'est le pseudonyme d'écrivain?
C'est juste l'inverse, mais c'est à peu près pareil.
C'est l'inverse?
Parce que mon père s'appelait François Direct, donc Direct, c'est le nom.
Alors, pourquoi aidez-vous?
Aidez-vous, ben, parce que je me suis dit...
Parce que vraiment, aidez-vous, je trouve que c'est...
Dans un tout premier temps, je me cherchais une sorte de...
Ah, tu te cherchais, tu te cherches encore d'ailleurs.
Oh, oui, et puis bon. je trouve pas mal d'éléments au fur et à mesure, parce que j'aime bien les enquêtes.
Et le rendez-vous, ça donne quoi?
Ça faisait un super jeu de mots, enfin, c'est ce que je pensais, le rendez-vous, hein, c'est un rendez-vous. Et puis j'avais déjà ma rue à Paris dans le 12e, la rue du rendez-vous. C'était bien pratique.
Oui, qui est une rue très, très agréable dont j'ai fait l'histoire, comme d'autres rues de Paris d'ailleurs, et qui est une rue où il y a des commerces de bouche d'une grande qualité.
Ah, tant mieux.
Et c'était le passage des Creusois quand ils arrivaient à Paris. Voilà, donc ces deux livres, alors c'est publié, vous êtes déjà venu à l'émission, tout le monde vous connaît. Quel est le rapport entre ces deux écrivains, au-delà du fait que vous vous connaissez bien? Est-ce que vous vous interpénétrez en littérature?
Eh bien, si on peut dire, pourquoi pas. Je présente le verbe poémer, une enquête. Cette enquête s'intitule très exactement « Bateauville, qui vous créa ?». Et dans ce livre, il y a des dizaines de participants, des poètes, des prosateurs.
Y a-t-il notre cher Fran?
Eh oui, il y a Fran Berko qui présente au moins deux poèmes et une prose très très intéressante.
Une nouvelle,
tout à fait.
Toi, Fran.
Fran.
J'ai le droit de l'appeler
comme, sûr,
je veux, hein.
Comme il veut.
Et je vais la changer de nom en permanence. Je vais l'appeler Flamme et Oriflamme.
Ah oui, pourquoi pas.
Et bah oui, et comme ça, ça lui permettra d'avoir une petite diversité. Comme elle était très ennuyée avant cette émission d'être toujours en conversation avec elle-même, je l'amène à être en conversation avec une autre personne qu'elle contient. Voilà. Mais c'est assez joyeux tout ça. La fréquentation des autres poètes, le rendez-vous, puisque c'est le jeu de mots de ton pseudonyme, la fréquentation des autres poètes a-t-elle influencé beaucoup? Continue-t-elle d'être influencée? Enfin, tu es le fils de qui?
Alors, j'ai eu l'occasion d'expliquer ça sur le même plateau, hein, le fils de Dany Direc et François Direc.
Oui, non, mais je ne te parle pas du fils matériel, ça on sait. Le fils de qui? Tu es le fils de quel poète, de quelle littérature?
Oui.
Tu es engendré par qui?
Oui. Bon, allez, je vais sortir un nom comme ça parce que ça va bien avec le Bateauville. Et c'est vrai que mon père adorait réciter ce texte, le bateau ivre de Rimbaud.
Tu es le fils d'Arthur?
Oui, au moins de
ça
son poème.
Ça a été
poème.
Fait au Harare ou
non,
ailleurs?
Non,
ou
par
erreur
que j'ai été... je suis né de son poème. Voilà, je pense que c'est plus ça.
Quel bonheur. Ouais. Donc, sur le chemin du bateau ivre, je rencontre le rendez-vous direct. Ouais. Et toi là, celle que j'appelle de tous ces noms là, et qui voudrait bien avoir... D'ailleurs, tout ça, c'est pas ton nom. C'est un autre nom un peu plus compliqué. Tu viens de quel pays, toi?
Je viens de quel pays? Je fais partie de cette lignée d'héroïnes poétesses. Je lis l'extrait de ma préface, hein, pour être honnête, écrite par Pierre Meige.
Mais c'est merveilleux, autobiographe.
Voilà. Comme Christine de Pizan, Joan Baez, Tina Turner, Louise Michel, Emily Dickinson, Barbara, Patti Smith, Nina Hagen, Joni Mitchell.
Mais en fait, tu t'appelles Solovka Berkovici.
Exactement.
Alors, c'est bien Solovka Berkovici.
Oui.
D'où viens-tu?
Zolovka veut dire belle-sœur en russe.
Oui.
Et Berkovici, ça vient du polonais Berkovits. D'où Berko.
Et toi, tu es... Il se trouve que dans ma vie, comme ça, j'ai une fille russe dont la mère me disait « Je suis russe de Moscou, mais j'ai du sang ukrainien, biélorusse... » et polonais. Donc,
pareil.
Et toi aussi.
Pareillement.
Voilà. Ah oui, bah oui.
Et voilà, breton également.
Ah, breton.
Oui, bah,
voilà. Tu es de là où finit la terre ou tu es de l'intérieur?
De l'intérieur. Par ma mère.
Voilà. Et pendant ce temps-là, elle regarde Laurent pour savoir si elle répond juste. Voilà. Après, les femmes sont des petites filles. Oh. Voilà. Mais enfin. Alors, comment la littérature est-elle entrée dans vos vies à tous les deux? Toi, Solovka, ou
Françoise aussi, on peut, si on veut, au hasard.
Oui.
J'ai commencé à écrire très tôt, dès que j'ai su écrire, finalement.
Et t'as su écrire, parce qu'il y en a qui savent écrire très tard.
À 7 ans. Non, j'écrivais des poèmes,
oui.
Oui, surtout des poèmes. Et j'ai toujours écrit mon journal. J'ai toujours tenu mon journal. Et,
quotidien
quotidien.
Tu continues?
Non, j'ai arrêté.
Pourquoi? T'as peur de la mort?
Ah, pas du tout.
Non.
Non.
Non, parce que un journal, ça fait avancer vers les
oui.
dates. Hein.
Alors, j'écrivais parce qu'à la maison, on ne parlait pas. Voilà, on n'avait pas le droit de s'exprimer. Donc, je me suis réfugiée et construite dans la littérature. C'est ce qui m'a forgée. C'était ma façon, à moi, avec la danse, d'ailleurs.
Tu étais enfant unique?
Non, je n'étais pas enfant unique.
Est-ce que tu pouvais échanger avec tes frères et sœurs?
Non, mon frère aîné... avait 4 ans de plus, mais il faisait beaucoup plus et on a été élevés un peu séparément. Les parents n'avaient pas le même regard sur mon frère que sur moi. Moi, j'étais la fille à l'époque, donc ça comptait moins.
Toi, tu es d'une époque, tu es né en 1900
dans ces années-là, ouais, après la guerre. Et donc, bah oui, mais c'est toute une époque. Attends, ça fait trois quarts de siècle hein, quand même. Et donc, j'ai choisi l'écriture. Intellectuellement, c'est ce qui me convenait le mieux. Puis c'est ce qui me permettait de m'échapper.
Et aujourd'hui, tu t'échappes toujours par l'écriture?
Alors, c'est plus que m'échapper. Maintenant, je continue de me construire par l'écriture.
Alors, vous voyez, chers amis auditeurs, c'est une chose qu'il faut savoir. Chaque jour nous construit et l'écriture est un témoin.
Oui.
C'est ça. Alors, on pourrait entendre un extrait de ton écriture? Parce que nous avons là deux écrivains qui ont l'art de dire et qui se produisent beaucoup sur les scènes mondiales, je sais pas, y compris à Radio Courtoisie. Voilà. Mais enfin, là, dans cette radio, dans ce petit studio que nous inaugurons quasiment, voilà, nous allons entendre cette poésie que tu as choisie, puisque je demande toujours à mes auteurs et à mes hôtes de choisir. Et je trouve que c'est très, très important. Voilà. Donc, alors, il faut savoir que le livre que tu ouvres, c'est très calligrammé. Donc, il y a une disposition typographique que vous ne voyez pas, mais qui est très remarquable, que tu pourrais peut-être décrire un tout petit peu, cette disposition typographique. C'est toi qui en es l'auteur de la disposition?
Ah oui, complètement.
Voilà.
Ouais.
Donc, c'est à la fois un poème et un dessin. Et tu peux dessiner, là, par les mots, le dessin que nous avons sous les yeux.
Vous avez sous les yeux un cerf-volant. La toile du cerf-volant et le cordon, la corde qui permet de le tenir et de le faire voler. Voilà, tout simplement.
Nous allons nous élever dans les airs et dépasser le plafond de ce studio pour nous rapprocher des nuages.
Le sang de la guerre teinte la rivière qui se mêle au fleuve jusque dans la mer. Le ciel s'en abreuve, les nuages pleuvent, gouttes délétères. Arrosant la terre, pluie de hallebardes, tonnerre beuglant, l'horizon se larde d'éclairs aveuglants. Là-bas, le poète désenchanté a levé la tête. Dedans les nuages, il voit son visage tout ensanglanté, et dans le vacarme de la pluie d'orage, recrachant le sang versé sur la terre pour nourrir la guerre, anéantissant ses espoirs de paix, il crie, puis se tait. Avec pour seule arme sa plume affûtée, il écrit des vers libres pour lutter contre les tyrans. Et, à bout portant, dénonçant leurs crimes, dégaine ses rimes que son cerf-volant, par-delà les mers et les continents, sème aux quatre vents.
Merci. Quand tu écris, ça coule de source? Ou c'est en même temps une pensée qui se formule au moment de l'écriture?
Ça coule de source, pour être honnête. Et ce qui vient après, ce sont évidemment les rimes. Ça, c'est pas toujours automatique, mais en général, ça vient quand même assez facilement.
Ouais. Autrement dit, je pense à Domela. Quand je me suis occupé de la cité fleurie, il y avait là César Domela, un des grands... de l'abstraction issue de Mondrian, et il me disait « Tous mes tableaux me sont donnés en rêve. D'un coup, je vois l'image et je n'ai plus qu'à la reproduire quand je travaille. » Est-ce que tu as des visions de ce type? Est-ce que ça t'est donné? Par exemple, là, parce que je l'ai vu, le cerf-volant. Je l'ai tenu d'ailleurs à l'instant. Il m'a échappé d'ailleurs. Il m'a échappé, je ne le vois plus. Mais, personne ne le voit plus, hein, personne ne le voit ici. Ben voilà, c'est ça. C'est très intéressant ce studio que vous ne connaissez pas forcément, chers amis auditeurs, mais il n'y a pas de vitrine qui nous sépare du technicien, et il est très expressif, Michael, donc il approuve, et je suis très content. Je le mets dans l'émission parce qu'il est un acteur muet, et moi j'aime beaucoup les acteurs muets, parce que comme ça il me dérange moins. Donc, à vrai dire, je ris parce qu'il fait des petits signes comme ça, et comme on fait en classe. Oui, ça t'est donné... Avant, c'est-à-dire au moment où tu l'écris, c'est là. Oui, parce que j'ai eu ce sentiment-là en t'écoutant.
Et c'est la même chose pour mes romans. Et effectivement, ça me vient souvent la nuit, en rêve. Même lorsque je cherche une idée, un chapitre, c'est en rêve que j'ai la réponse. Enfin, en rêve ou pendant mon sommeil.
On va une seconde te quitter parce que c'est un jeu de ping-pong. Et puis je sens que Laurent Direc est complètement frustré. Il est dans un état d'assoiffement, d'affamé, enfin terrible, là, parce qu'il ne s'est pas encore manifesté. Et toi, tu es très scénique, toi, Laurent. Tu aimes beaucoup la scène.
Oh, bah écoute, je vais te raconter quelque chose. D'abord parce qu'il y a une sorte d'enquête.
Il faut dire que t'es fils d'acteur.
Oh oui. Mais attends, parce que le père et le fils, c'est quand même pas pareil. Mais je vais te raconter cette enquête du marché de Saint-Ouen qui entoure et comment ça a commencé.
Mais tu sais, comme moi. Moi, tu sais que je suis pas rigot. Je peux te la faire aussi. Hein. Je la fais pas souvent à ce micro, mais écoute, si tu veux, je te la fais.
Eh bah tant mieux. Ça commence comme un film des années 70. Et ça tombe bien, c'est justement l'époque. Un petit matin, mais non pas un petit matin, un après-midi de Paris gris. Un brocanteur est tout content qu'un drôle de gars, genre artiste anarchiste, le débarrasse d'un objet encombrant. Oui, bien sûr, un très bel objet, conception rare, très abouti. C'est artisanal et artiste. Je comprends que cela vous plaise. Le prix, je crois qu'on va s'entendre. Le brocanteur empressé, tout heureux, avait récupéré le bateau-ville de stand d'à côté que son propriétaire avait quitté de façon précipitée, se sachant poursuivi par la police. Vous comprenez, j'ai soulagé un collègue en difficulté de quelques affaires. Et en prenant ce grand morceau de bois de ce stand, on y voit quand même plus clair. Des éléments d'identification de ce beau bébé? Non, j'ai laissé toute la fine paperasse des fiches dans les tiroirs du collègue pour pas déranger ses affaires. Vous parlez de collègue? Vous travaillez avec lui de quelle manière? Je dis collègue, je le connais pas plus que ça. On se dit bonjour en ouvrant nos stands. D'ailleurs, sur ce stand, ça va, ça vient. Un collègue remplace l'autre. Moi, ça fait longtemps que j'essaie de faire mon trou ici. Mon frère a obtenu cette anecdote peut-être décisive du stagiaire du brocanteur décédé depuis. Et oui, ça commence vraiment comme un film d'aventure des années 70. Le bateau-ville a été récupéré par un brocanteur sur le stand d'à côté. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'infos sur ce monument de bois. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on fait l'enquête. Pour savoir, mais qui donc a créé ce bateau-ville? On aimerait bien le savoir avec toutes les années. Alors, ce bateau-ville a été exposé au Café de la Gare pendant une vingtaine d'années. Et ensuite, vers les années 90, Romain Bouteille a offert à mes parents ce magnifique bébé, donc de 3,50 m, 1 m de large, 1 m 10 de hauteur. Et donc, ce magnifique bébé, on l'a eu dans le garage pendant 10 ans. Après, à la mort de mon père, la famille a offert ce monument de bois, un petit peu encombrant, il a toujours été un peu encombrant. Eh bien, on l'a offert à la mairie de L'Haÿ-les-Roses, où mes parents et qui crêchaient. Et on l'a offert à cette ville. Et pendant 10 ans, le bateau-ville a été un petit peu sous les eaux, des hangars et tout. Et au bout de 10 ans, il a été restauré, il a été présenté à la fête du patrimoine 2011, à L'Haÿ-les-Roses, et depuis, il est à l'auditorium de L'Haÿ-les-Roses. On peut l'y voir, lorsqu'on va voir un spectacle, à l'étage, on peut voir ce magnifique et
vous
étrange
monument.
Vous avez
vu que nous avons là affaire à un poète de la publicité. Tu m'as fait penser à l'instant à une anecdote de ma vie qui est restée très profonde. J'avais emmené un certain nombre de gens à Tenerife, où résidait un de mes fils. J'étais monté au Teide, le plus grand volcan du monde, et j'étais accidenté, et j'avais une béquille. Peu importe, et là, là-haut, je commence à lire Le Voyage d'André Breton à Tenerife. Et puis, il y a une particularité météorologique à Tenerife, la mer de nuages. Quand on redescend du Teide, qui est à 2000 mètres, eh bien, tout d'un coup, il y a une mer de nuages comme on pourrait se poser dessus. Et elle envahit le quart dans lequel on est, et la nuit aussi. Et je continue à parler, comme tu viens de le faire, sans lire. Et là, je n'avais plus le texte, et je vais donc l'improviser. Et mon fils, cadet, qui est aussi écrivain et historien, les gens se rendent compte que ce n'est plus le texte de Breton, pourtant ils ont l'impression d'entendre du Breton, et mon fils dit « Bien sûr, papa est André Breton ». Eh bien, à l'instant, tu as été toi-même et tes parents, et tu as commencé en lisant, et puis tu as continué en improvisant. D'ailleurs, finalement, il y a toujours le « isant » là-dedans, si j'ose dire. Et en fait, cette aventure du bateau-ville, c'est quelque chose qui, puisque tu es l'enfant du bateau ivre, a marqué ta vie. C'est une évocation ou c'est quelque chose d'extrêmement présent? Est-ce que la littérature, comme elle est quotidienne chez Fran, je l'appelle par son vrai nom, là, je suis sympa hein, quand même, eh bien, elle est chez toi, Laurent, également quelque chose qui, sans être quotidien, vient depuis toujours.
Oui, tout à fait. Puisque, par exemple, ce bateau-ville, je l'habille de mots. J'essaye depuis des années, en quelque sorte, de me l'approprier, mais surtout peut-être de le révéler, de révéler qui est ce bateau, quelle est son histoire, son parcours. Et nous avons fait, dès 2013, un premier livre avec des poèmes, des chansons. Et également, il y a des observations faites par les jeunes restaurateurs de ce monument de bois. Donc, tant en observation, on va dire, documentarisée, que de poèmes également faits par ces jeunes restaurateurs.
En fait, Fran nous emmène en ballon, tu nous emmènes en bateau, et moi, je vous emmène où vous voulez. Vous avez choisi, c'est assez amusant, comme première musique, la marmotte. Enfin, comme, donc, pourquoi? C'est peut-être Fran qui va désannoncer cette partie musicale.
C'est un morceau que j'ai étudié au piano,
oui.
Et j'ai découvert.
C'est une musique de Beethoven.
Oui, de Beethoven. Avec un texte de Goethe, voilà, qui a fait des séjours en France et qui a découvert ce charmant animal, enfin, qu'il n'a pas découvert, mais qui en a rencontré, la marmotte, et il a écrit dessus quelques paroles en français, ce qui est assez remarquable. Et c'est un morceau que je trouve très, très amusant, vivifiant, enthousiaste, qui était joué par les ménestrels. La marmotte étant présentée comme un animal, non pas de compagnie, mais comme les ours que l'on faisait danser. Bon, ça prenait moins de place.
Ah bah, il est clair qu'en général, je me penche rarement sur un ours, qui d'ailleurs, entre parenthèses, est mon animal totem, puisque je suis d'Appenzell par ma mère, et nous avons les mêmes armes que Berne, donc mon armoirie, c'est l'ours.
Donc dans les gargotes...
D'ailleurs, je ressemble beaucoup à un ours, tous les auditeurs vous le diront, enfin, c'est évident.
Oui, et mon nom veut dire « qui descend de l'ours », comme ici, fils de... Bon, bref.
Et donc,
on faisait danser les marmottes dans les gargotes. Ciao. vers.
Oh, elle fait des spontané, vers. Hein. Elle fait des
c'est
vers
spontané.
Comme d'autres
comme Prévert.
Font des. Oh non, beaucoup mieux que
pas.
Ça, font des chansons. Et donc, c'est vrai que le vers chez toi est un ressort de la poésie. Et chez toi, cher Laurent, est-ce que le vers est important? Ou on a entendu tout à l'heure un texte qui était intéressant pour l'accent et l'histoire, mais les vers t'importent beaucoup quand même, parce que. Même
oui.
Ta forme poétique
oui.
est une forme versifiée.
Bah oui, en étant enfant justement du bateau Yves de Rimbaud, j'ai été tout de suite pris par le rythme des vers, alexandrin ou autre, mais en tout cas toujours forgé, toujours élaboré. Et il en est forcément resté quelque chose, même si avec les années j'ai pu aussi faire des tentatives de vers un peu libérés.
La tentative en général est suivie du mot avorté. Alors est-ce que tes tentatives sont avortées ou elles sont... Des fois on dit tentative réussie aussi.
Oui. C'est-à-dire que j'essaye par exemple de faire une forme mixte en gardant très souvent la rime, mais sur des vers, on va dire, hétérométriques, comme chez Ton La Fontaine.
Et tu peux parler plus clairement, non, qu'est-ce que c'est qu'hétérométrique?
Non, c'est-à-dire qu'avec des vers
qui n'ont pas
la même
longueur,
tout à fait.
Voilà.
Ça fait plus de variété et une sorte de
voyez,
liberté
chers amis, quand
créatrice.
Vous parlerez d'hétéro, vous saurez que ce sont des vers irréguliers.
Oui, voilà.
Je le savais depuis longtemps.
Oui, alors après, c'est vrai que comme je suis fils de Rimbaud, c'est vrai qu'il faut quand même aussi préciser ces éléments.
Moi, je suis l'enfant d'Arthur. Donc, avec tout ça, ça fait une grande famille. Oui. Vous vous croisez tous les deux, vous écrivez parfois ensemble?
Rarement. Ce qui se passe, c'est que j'écris et Laurent illustre.
Car il est aussi illustrateur.
Alors, il est aussi illustrateur.
Quel talent.
Voilà.
Oui, mais de photos.
Parfois, il me... en photo. Hein. Ouais. C'est-à-dire que mon recueil est classé par ordre alphabétique et chaque lettre est illustrée.
C'est chez quel éditeur?
Chez Édition Unicité.
Ah bah oui, voilà, notre cher ami.
Collection Chante-Langue et compagnie créée
que tu diriges.
En 2024.
Eh oui, parce que monsieur est directeur de collection.
Il y a une dizaine d'ouvrages depuis.
C'est donc chaque lettre est illustrée par 4 photos prises par Laurent.
Selon quel principe, alors, ces illustrations? Parce que moi, je les ai sous les yeux.
Bon,
ces
petites icônes.
En plus des calligrammes. Et parfois, je reçois des commandes de Laurent. Par exemple, hier, il m'a demandé de réaliser le calligramme d'une carafe.
Alors, le calligramme d'une carafe.
Carrément, oui.
Pourquoi monsieur se fait-il carafer?
C'est un rapport avec le roman que je suis en train d'écrire, parce que je n'ai pas signalé le fait que je suis avant tout romancière. Et je viens de terminer un roman dans lequel est évoquée une carafe d'eau qui nous a été offerte un soir tard dans un restaurant de ma ville. Alors que nous attendions l'arrivée de... Enfin, c'est très difficile pour moi d'en parler.
Bon,
une arrivée tardive, voilà, de la police au domicile de ma fille que j'avais trouvée sans vie. Voilà. Donc, nous attendions à l'extérieur. J'avais confié les clés aux policiers. J'étais sans les clés. Il faisait très froid. Nous ne savions pas combien de temps nous allions attendre. Et... ce restaurateur nous a offert une carafe d'eau sans rien demander, alors qu'auparavant, on nous l'avait refusée.
Dans un autre
lieu de restauration.
De la même rue.
Et donc, j'ai écrit un calligramme sur cette carafe hier.
Tu peux nous le lire?
Je ne l'ai pas sous les yeux.
Ouais. Tu ne l'as pas sous les yeux.
Prochaine émission, c'est promis.
Ah, prochaine émission. Voilà, c'est l'art de revenir. C'est vrai que.
Dans le prochain livre.
Je suis l'homme des rendez-vous, non pas manqués, mais prolongés. N'est-ce pas? Mais j'aime beaucoup.
Oui, c'était de cette carafe à ras-bord. L'eau s'écoule goutte après goutte. La vie s'écoule coûte que coûte.
Etc.
Ouais. Nous acheminons vers la mort.
Comme un sablier, m'a-t-elle précisé hier.
Et alors, là, c'est un fait qui inspire ou qui est l'origine du récit. Chez toi, cher Laurent, est-ce que c'est la forme ou le sens qui prédomine? Peut-on t'écouter après? Réponds à la question, s'il te plaît.
Je vais
une question
essayer.
Est faite pour avoir une légère réponse.
Oui.
Une réponse légère.
En m'appuyant sur ce monument de bois qui reste une énigme.
Il est toujours là, il est toujours référent.
C'est-à-dire que, au moins pour cette anthologie, et puis ce n'est pas la première, puisque c'est la deuxième, et qu'il y en aura une troisième avec la résolution de l'enquête, grâce à vous.
Comme le technicien quand il nous déclenche. 1, 2, 3, allez-y.
Voilà. On attend cette résolution de l'enquête.
Oui.
Bon, alors, ce dont je suis content par rapport à cette démarche, c'est que c'est un sujet extérieur qui me sort de mes routines, de mes chemins où j'aurais enfermé ma propre poésie, ma propre façon de construire. Donc là, c'est une ouverture. Alors, toi, tu parles justement de l'ouverture à l'autre, tu en fais souvent l'éloge. Eh bien, grâce à ce monument de bois, eh bien, j'accède à l'autre, j'accède à plein d'autrui de différentes époques.
En fait, nous recevons ici, oui, dans ce petit studio, l'Arche de Noé.
Mais oui !
C'est ça !
Mais oui !
Tu prends par couple tous, oui, les êtres vivants et tu les reçois dans ton anthologie.
Et du reste, dans cette anthologie, il y a plusieurs auteurs, oui, qui ont justement osé cette image.
Tu peux peut-être nous en lire un, puisque, ouais, tu es aussi un excellent interprète.
Je peux peut-être lire, ouais, celui que j'ai écrit aussi.
Alors, voilà, enfin, arrangez-vous entre vous, ouais, en direct.
T'es d'accord ?
Évidemment, en différé d'ailleurs.
Un extrait, le temps que je trouve, par exemple.
Alors, Bateauville.
Alors, comme ça nous évite un creux, un silence, un trou noir.
Que sont les âmes devenues des passagers du Bateauville ? Errent-elles encore d'île en île ou bien dans un monde inconnu ? Le peuple qui vécut à bord de cette nef abandonnée est-il mort de sa belle mort ou les a-t-on assassinés ? Les habitants pestiférés d'une cité du Moyen-Âge, tous ensemble, ont-ils préféré s'embarquer et prendre le large ? Du haut des remparts du château, ont-ils plongé dans l'océan ? Ou bien le maître de Céan a-t-il sabordé le bateau ? Furent-ils noyés par des pirates ou pourchassés par le maudit ? Se sont-ils jetés dans l'Euphrate pour entrevoir le paradis ? Qui était donc le capitaine à bord de ce vaisseau fantôme ? Un grand seigneur en quarantaine, un roi chassé de son royaume ? Était-ce la misère ou la haine, ou bien le rocher des enfers qui conduisait ces pauvres airs jusqu'aux portes de la Géhenne ? Est-ce la volonté de Dieu qui les plaça sur cette esquive pour expier leurs crimes odieux par un châtiment collectif ? Les échoppes au pied des remparts sont closes, et même les bicoques alignées le long de la coque, tout témoigne d'un long départ. Les oubliés du Bateauville ont-ils supplié la Madone les jours et les nuits de vigile pour que sa grâce leur pardonne ? Dans mes rêves, je vois flotter leurs corps enveloppés d'écume et croire ouïr le son ouaté d'une lointaine corne de brume. Je me demande bien pourquoi la nuit, le souvenir me hante de ce vieux monument de bois acheté dans une brocante. Une église, un chapiteau et des canaux de sabotage, mais pas le moindre personnage ne s'affaire à bord du bateau. Ont-ils débarqué à Cythère ? Et ce vaisseau, qui l'a créé ? Dévoilera-t-il son mystère ? Est-ce un Orla qui l'a gréé ? Nul ne saura jamais, je crois, comment finit son aventure. Autant dire à chacun sa croix, tout le reste est littérature. Dans les années 70, Romain Bouteille l'a acquis. Pour ce bateau, 70 vers au bas mot étaient requis. Telle la belle au bois dormant, gisant dans son cercueil de verre, protégée de tous les tourments des océans et de la terre, don de la famille d'Irec à la ville de l'Aïle-et-Rose, le bateau-ville, enfin au sec, à notre seul regard s'expose.
Alors nous voici protégés des éléments et de la mer et de l'océan. En fait, ce bateau, il est aussi un agent de liaison entre vous deux.
On peut dire ça d'une certaine façon, parce qu'à l'époque où je ne connaissais pas encore Laurent et où son père jouait donc dans ce fameux café de la gare, il s'avère que lui et les acteurs étaient parfois gênés par le bruit des claquettes qu'ils entendaient et qui parvenaient du cours...
Le cours de danse.
De danse.
Bien sûr.
Beethoven.
Qui était dans la cour de l'hôtel particulier,
voilà,
donnant
au-dessus,
sur la rue du Temple.
Voilà, cours auquel je participais. Donc, sans le savoir, je dérangeais déjà.
Mais tu sais que déranger, c'est bien. Ce qui est encore mieux, c'est d'être dérangé. Ce qui est mon cas,
oui,
d'ailleurs.
Je me faisais déjà connaître.
Connaître, Cognosco. Alors, je vois que Laurent a eu ce geste opulent d'ouvrir le livre comme un éventail et il va nous lire, moment tragique et pourtant d'une grande noblesse.
Alors, tout à l'heure, tu demandais le lien avec le bateau de Noé, de l'Arche.
Bien sûr.
Donc, je peux simplement déjà te dire que Gérard Bouvier et Michel Goudet, deux des auteurs, ont fait cette analogie. Et j'aimerais aujourd'hui rendre hommage un Bernard Chasse, un poète
disparu
il y a vraiment quelques jours, et à qui j'aurais vraiment, vraiment voulu montrer cet ouvrage, qui contient plusieurs séries de ces estrambeaux consacrés aux bateaux-villes. Du reste, dans le premier tome, il y avait déjà les quatre septuors d'estrambeaux, c'est-à-dire sept fois... 4 x 7 donc poème de Bernard Chasse. Alors je vais vous lire le premier ici de cette nouvelle série. Adéquation entre le bateau ivre et le bateau ville. Et on revient un peu à la source justement de mon intérêt.
Pour... Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on voyage aujourd'hui et bientôt ça va être l'arc-en-ciel dans le studio.
Oh là 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 là. Comment écrire des estrambeaux sur le bateau ville sans penser à Rimbaud et à son bateau ivre? Sans songer à son poème voyelle. Dans quatre septuors fameux, j'ai déjà écrit sur le bateau-ville. C'est peut-être autrefois Rome, en les jardins de la Villa Borghese, en buvant du Francati, que j'ai rêvé du bateau-ville en écoutant quelqu'un me lire le poème d'Arthur Rimbaud. Il y a en l'ivresse des mots comme une connivence qui s'instaure entre le bateau-ivre et le bateau-ville. La maquette du bateau-ville fut donnée à François Direc. Pour quel mystère ! Celui qui le sait, qu'il le dise ! Sur la rive de rêver, où sont les piroguiers ? Où sont les dorades et les archipels sidéraux ? Où sont les poissons d'or ? En la nuit des estrambeaux, j'ai vu Rimbaud monter sur le bateau ivre. Donc c'est un des nombreux poèmes qu'a composé Bernard Chasse sur ce thème. Bernard Chasse était un poète qui n'a pas beaucoup été publié, malheureusement, et le verbe poémer s'y est employé au fil des anthologies. Très attaché à sa ville de L'Haÿ-les-Roses. D'ailleurs, il disait que plus que Sceaux, L'Haÿ prête au rêve. Et quand je lui ai proposé ce thème du bateau-ville, eh bien, il s'en est emparé et il a passé plusieurs nuits d'écriture sur ce thème dans ses estrambeaux en vers libre, justement.
Oui, il y a là, quand on écoute, il y a là comme une confidence. On sent quelqu'un qui écrit sous la lampe et qui médite sur ce sujet. À vrai dire, L'Haÿ-les-Roses, ne serait-elle pas votre Rome, votre Jérusalem, votre voyage vers l'Orient ?
Les jardins du Golestan.
Mais oui, le Golestan qui vient d'être fortement abîmé, comme vous le savez.
Qui veut dire jardin des roses.
Mais je sais, sais. Et l'autre jour, j'étais avec une très grande amie bulgare et... Comme vous le savez, il y a toute une région de Bulgarie. Et mon dernier livre traduit en bulgare m'a fait plaisir, puisque bulgare égale orphéique, puisque le pays d'Orphée est dans l'ancienne Thrace, qui est la Bulgarie. Donc nous sommes là, au pays des roses. Et voilà, je vous laisse lire, cher ami.
Alors, oui, les roses.
Votre auditeur ne peut pas voir cette rose en filigrane.
Mais je vois.
C'est un texte que je dédie à monsieur de Ronsard.
Alors, comme je ne veux pas me mettre en avant, mais vous... Tous les auditeurs connaissent mon immense modestie, puisque je suis prince en poésie, je suis l'héritier, m'a-t-on dit, de Ronsard, qui a été le premier prince des poètes. Ah. Donc je vous remercie de parler de mon grand-père.
Je ne sais pas si vous allez forcément apprécier.
Mais ça ne me dérange
pas. C'est à lui que je m'adresse.
Ronsard est un mon ennemi, parce qu'il a été à l'époque le serviteur du roi, très catholique, contre les protestants. Donc voilà, Ronsard a gagné sa vie en politique, il ne faut quand même jamais oublier ça. Mais par ailleurs, c'est un immense poète.
À monsieur de Ronsard, les roses de mon temps ne se fanent plus guère. Les femmes très longtemps conservent leurs atouts et ne vous en déplaisent par choix et par goût. Se livrent aisément au plaisir de la chair. Les femmes de mon âge font encore l'amour avec le plus souvent de beaux jeunes amants. Il est bien révolu, mon cher, le temps d'avant où les hommes devaient jouer les troubadours. Ce n'est pas pour autant qu'il faille imaginer que toutes les jeunes filles de notre époque, considérant l'émoi que leur beauté provoque, soient, sans honte ou regret, prêtes à se donner. Un Géronte, qui se croyant tout permis, les harcèle et se moque bien de leur refus, se croyant pareil à ce que jadis il fut, quand c'est lui, à présent, qui aux temps est soumis. Les femmes de nos jours expriment leurs désirs. Nous savons dire non, sans craindre la vieillesse. L'amour n'est pas l'apanage de la jeunesse, car nous aimons jusqu'à notre dernier soupir. Il est bien révolu, mon cher Pierre de Ronsard, le siècle où les hommes usaient de votre adage. Les femmes de mon âge gardent avantage de roses, elles sont devenues des cougars.
C'est le bon moment pour entendre la seconde plage. Nous parlerons tout à l'heure de l'ange parisien que nous allons écouter avec Pierre Meige et à la suite le Bobino, et nous reprenons notre émission dans les instants qui suivent.
Parisien ou banlieusard, station Michel-Ange ou Saint-Lazare, je me déguise toujours en hasard, sinon j'aurais une gueule bizarre. Je viens tout droit du firmament, un coup d'aile, à peine un frôlement. Sur les trottoirs, pas d'affolement, j'ondule toujours discrètement. Dans vos églises, vos cathédrales, vous m'avez sculpté sur la pierre. Vous m'avez même offert à Vaugirard une chapelle. Messager rue du Bac, sur les plafonds de Saint-Sulpice, vos plus grands peintres m'ont glorifié. Mais dans le Paris du Code de Vinci, ange ou démon, je suis déchu de mes fonctions. À Saint-Michel, j'ai même terrassé le dragon. Mes divins prénoms attirent toujours votre attention. Dans vos échoppes, vos librairies, vos musées, Gabriel, Raphaël, Djibril, Azraël, vous me vendez comme une attraction. Aile repliée, je me glisse sous la terre, entre Saint-Jacques et la glacière. Je respire enfin l'air du métro aérien. Je repose mes ailes sur un strapontin. Mais c'est pas toujours zen à Paris, le quotidien d'un ange. Parfois mes ailes me démangent, alors je fais briller mes plumes. Dans vos yeux, une lueur d'amour s'allume. Y a de la magie sur le bitume. Vous me prenez parfois pour un martien ou un acteur hollywoodien. Moi, je préférerais juste être un humain. Comme ça, moi aussi, à Paris, j'aurai mon ange gardien.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je vous remercie, chers amis, chers Fran et chers Laurent, de rendre hommage à Paris à travers l'ange parisien. Un petit mot pour commenter cette plage musicale et vocale.
Oui. Alors, je voudrais oui. Ajouter que, bon, là, évidemment, c'est un pastiche que j'ai écrit, j'ai fait ça en m'amusant. J'ai obtenu le prix Ronsard pour les 500 ans de Ronsard à la suite d'un concours qui a été lancé.
Pierre Meige était d'ailleurs dans le jury.
C'est
on
là
le
où j'ai fait
pas
connaissance
encore.
De Pierre Meige, puisque nous avons été reçus, j'ai été reçu dans le
château de la Poissonnière,
le manoir de Ronsard, au château de la Poissonnière,
qui est lui-même accompagné par tout le jardin des roses.
Exactement. Pour y lire ce poème que je veux bien lire d'ailleurs. Le thème du concours était comment déclareriez-vous votre amour de nos jours.
Voilà, qui est une recette très importante que nous inscrivons dans le déroulement de ces guides pratiques que constituent Promenade et Flânerie au domaine de poésie.
Alors, c'est un poème en forme de lyre. Et tous les vers du poème prennent place à l'intérieur des cordes de la lyre. Ça s'appelle « Lyre à l'amour ». Au fond d'un couloir du métropolitain, dans l'ascenseur de la Tour Eiffel, sur le Mont Carmel, le Mont Parnasse, gare Saint-Lazare, salle des pas retrouvés par un bon samaritain, galerie Lafayette, galerie des glaces, sur la banquise, un banc d'église, pendant la V, sous les pavés, sous d'autres cieux, en haut d'un mât, à la une, à la deux, à la trois, à l'étroit, l'envers ou l'endroit, avec la plume de l'oiseau lyre sur le sable de la dune, en plein désert, au clair de la lune, j'écrirai un poème d'un seul vers pour te dire « Je t'aime ».
C'est la conclusion de ce poème, mais c'est la conclusion de toute vie. Je crois que si on n'était pas autour de ce micro, eh bien, pas seulement engendré, mais aimanté par l'amour, nous ne serions pas là, n'est-ce pas ?
Exact.
Voilà. Et alors, l'amour dit par Fran et l'amour dit par Laurent, ça dit quoi ? Laurent, qui est un petit gamin de Paris et qui l'a fait entendre là au cours de cette émission, est-ce qu'il a quelque chose là dans son poémé sur l'amour qu'il aimerait partager avec nous ? Vous savez, quand on dit partager, ça fait un peu d'église, tout ça, c'est bien. Non, une communion autour de ce micro, puisque nous sommes là bien resserrés avec les gamineries de Michael pendant ce temps-là, n'est-ce pas ?
Eh bien, voilà. Je vais vous parler de l'amour de Claude Mann, qui est un comédien.
Oui.
Qui a dirigé pendant longtemps le théâtre François Direc, donc qui portait le nom de mon père à Joinville-le-Pont. Et ce comédien, metteur en scène également, a été un des initiateurs du Café de la Gare, justement.
Entre parenthèses, cette émission, on pourrait être dédiée aussi à la banlieue. Parce que, et j'aime beaucoup le mot banlieue. Oui. Je trouve très beau de dire, bon, ça veut dire que c'était le banc de l'armée là, qui faisait une lieu.
Oui, voilà.
Mais on est bien Paris-banlieue.
Oui, hein, c'est vrai, c'est tout ça. À fait.
Merci.
Et du reste, Claude Mann a eu ce grand rêve d'un théâtre en banlieue, de faire vivre ce théâtre pendant des années. Alors, il y est arrivé peut-être à moitié seulement par rapport à son grand rêve, mais il a quand même fait vivre ce théâtre François Direc pendant plein d'années.
Qu'est-ce qui est devenu ce théâtre aujourd'hui ?
Eh bien, il s'est rendu à d'autres fonctions, puisque ce théâtre a été rendu au propriétaire. Alors, je vais vous lire son témoignage, « La croisière héroïque du grand bateau », donc par Claude Mann, qui était au cœur du Café de la Gare depuis le départ. « La croisière héroïque du grand bateau ». Du bateau-ville, échoué dans un hangar, j'ai parcouru par la pensée les remparts, les échoppes, les tours et les fossés. Je les ai écumés, j'ai côtoyé son peuple, je l'ai vu exister. Avec eux, j'ai déchiré les vagues sur son pont boisé. J'ai chanté, dansé dans ses ruelles. Il y avait des nantis, des mendiants aux écuelles, un peuple basané, tanné par les embruns, le regard perdu au lointain. Ce monstre des océans mythiques, préfigurant puissance 10, le Titanic, bien qu'il ne coula pas, c'est Loïc, puisque Romain Bouteille le sortit de l'oubli, le fixant au plafond avec des poulies, au Café de la Gare, son port presque définitif, dans cette histoire tirée par les tifs. Puis vint François Direc, nouveau propriétaire qui le sauva de la poussière, le décrochant des cintres, le sauvant de la mort, ses glorieux capitaines ont rêvé à son bord, comme les curieux qui le regardent, à présent échoués dans ses rambardes, à l'abri des vents, des courants scélérats, requinqué, restauré par de petites mains penchées sur son étrave et redressant ses mâts, ce ne fut pas en vain. Emmène-nous, bateau dément, au-delà de la terre et des océans, loin des guerres et de la politique, dans une croisière fantastique. On rêve plus intensément quand on navigue sur un géant. Claude Mann, qui a vu le bateau arriver, s'endormir, repartir et renaître. Joinville-le-Pont, Val-de-Marne. Voilà, donc lui, il était à la fois de Paris et de cette banlieue. Et il était doublement de notre famille, ce Claude Mann, puisque c'était un cousin de ma mère. Et en même temps, lui qui s'était éloigné de sa propre famille, eh bien, avait rejoint la famille des comédiens. Et par là même, il est entré dans la famille de mon père et a retrouvé donc sa cousine, ma mère.
Vous êtes tous les deux à cheval sur plusieurs mondes. Toi, Fran, tu es poète, romancière et au fond aussi musicienne.
Un peu.
En tous les cas, amatrice de langue. Toi, oui. Laurent, tu es ce que j'appellerais un poète rassembleur. Il y a des poètes isolés, toi c'est le contraire.
Oui, c'est pour ça aussi que j'avais choisi en pseudonyme Le Rendez-vous. Justement.
Et oui, et tu es le rendez-vous des autres. Et finalement, qu'est-ce que les autres... Toi, la romancière, c'est dans la fiction. Toi, c'est dans la réalité des êtres humains. Qu'est-ce que tout ça apporte, nourrit tous les jours dans vos vies ? Est-ce que votre imaginaire est un imaginaire du réel ?
Alors, en ce qui me concerne, plutôt que musicienne, enfin, ça va aussi également ensemble, je suis à la recherche de l'harmonie. C'est-à-dire que j'ai pratiqué la danse pendant de très longues années, à peu près à l'âge où j'ai commencé à écrire, plus tôt même, à l'âge de 5 ans. Et j'ai raccroché mes ballerines à l'âge de 50 ans, après avoir enseigné la danse jazz. Et depuis, je pratique le Tai Chi Chuan. Voilà. Mais pas simplement la forme lente, comme on la voit dans les parcs,
oui.
La forme martiale, avec les armes, c'est-à-dire l'éventail, le sabre et l'épée. Et j'ai trouvé là une autre façon de m'équilibrer, enfin de garder un équilibre, pour autant que j'en ai un, qui, avec l'écriture, a un rapport direct, parce que le summum, l'apogée des arts martiaux, c'est la calligraphie. C'est-à-dire la calligraphie chinoise, hein, notamment, ou japonaise, enfin, les kanji, le geste unique du calligraphe vient après des années d'études d'arts martiaux, de méditation, et il trace d'un seul jet le kanji ou l'idéogramme. Et cela, pour moi, a un rapport direct avec l'écriture. Quand tu disais tout à l'heure, est-ce que mes calligrammes me viennent d'un coup ? Eh bien, c'est un petit peu ce geste que je recherche, qui est inaccessible par définition, parce qu'on veut toujours aller...
On est à la poursuite de ce geste.
On est à la poursuite,
bien sûr,
comme d'un idéal. Et j'ai trouvé, donc, dans la danse et le tai chi, allié à l'écriture... une sorte d'équilibre dont j'avais besoin.
T'es moins folle qu'avant, tout en restant suffisamment folle pour l'écrire.
J'essaye d'être dans la fantaisie,
oui,
si je peux.
J'ai bien entendu. Et toi, cher Laurent, là, on a entendu le voyage. Et quel est le voyage de Fran et ton voyage à toi ?
Eh bien, ce terme de fantaisie me plaît beaucoup. Et donc Fran, du reste, est l'autrice d'un écrit singulier et très motivant qui s'appelle La Fabrique des Fantaisies.
Qui a reçu le prix des Nouvelles, d'ailleurs.
Oui, à Toulouse.
Des Jeux Fleurons.
Publié chez qui ?
Alors, à l'époque, c'était Les Trois Encres.
Très bien.
On peut le trouver ? Maison d'édition.
On ne sait pas.
Je ne sais pas s'il en reste encore.
En tous les cas, essayez de le trouver, chers amis.
Oui. Et Califrane a reçu aussi un prix à Toulouse.
Reparlons-nous de vous, puisqu'il nous reste une ou deux minutes avant d'entendre La Gare de Nantes par Jacques Higelin, que vous avez choisi pour aimer beaucoup Jacques Higelin et comment je le comprends. Et puis, il fallait terminer par Nantes, parce que, voilà, depuis Barbara, Nantes, c'est quand
même... Avec une petite rousse qui se tape une mousse au chocolat.
Voilà.
Salle d'attente de la gare de Nantes, j'attends. Un vieux légionnaire s'endort sur sa bière en chialant. Qu'est-ce que je donnerais pas pour être au chaud. Dans les bras de cette fille de Saint-Malo qui serrait son matelot sur le quai. Fin de tuelle, j'ouvre un magazine et je vois une jolie petite rousse qui se tape une mousse au chocolat. Ses lèvres gourmandes m'invitent à en prendre avec elle. Rien qu'une cuillère avant que sa grand-mère ne revienne. De la gare de Nantes.
Un tout dernier texte par Laurent, avant qu'on ne se quitte sur la musique et qu'on dise vive la poésie comme toujours. Cher Laurent,
d'accord.
Je t'entends, je t'attends.
D'accord, eh bien écoutez, je vais vous lire parmi les nombreux auteurs de ce livre, un des textes reçus le plus tardivement.
Brièvement.
Oui, brièvement, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à la page. Mais
oui, c'est ça, et la page est longue à trouver, vous entendez bien que je fais là et qu'elle ne la trouve pas, évidemment.
C'est
un homme extrêmement organisé. À toi.
Alors à moi. Ah bah attendez, et si on lisait un texte de l'ami Frédéric Andreux ?
Eh bien oui,
on a lu aussi.
On vient souvent. Allez.
Alors nous partirons sur un vaisseau. La pluie m'a conduit au-delà du mirage. Je marchais longtemps sans même me soucier du sens de la marche. Quand le plus dense des rayons de soleil, telle une épée ancienne, m'indiquait le bon sentier. Je voyais le chemin de l'espoir gardé par une pierre de légende. Un roi me prit par la main et nous traversions ensemble la forêt des mots. Sans confondre les hauts arbres et les piliers d'église, il prononça une prière dans un vieux latin de fougère. Puis, tout s'évapora comme un vent arrêté. Je dois vous dire, l'enfant est souverain de la couleur des eaux. Il puise sa poésie dans le rêve qui le regarde de l'autre côté de l'onde, là où sont les poussières d'or de la terre. La pluie va cesser de tomber. La plus dangereuse pente n'est-elle pas de perdre son temps dans les alvéoles du temps, de suivre ces tueurs d'enfance qui ne savent que pérorer sans jamais, jamais écoutez la parole. Je vous ai lu des extraits de Frédéric Andreux, qui est aussi un poète de la fantaisie.
Il est surtout le poète à bicyclette. Et c'est à bicyclette, même si on n'entend pas la chanson de la bicyclette, que nous allons en gare de Nantes avec Jacques Higelin. Merci mes chers amis.
Merci
à tous les deux. Et merci à la poésie de nous unir. Et merci à la technique de nous garder et conserver en boîte pour les mois qui viennent.
Merci Michael.
Venez d'entendre Promenades et Flâneries au domaine de poésie dirigé par Pascal Payen-Penzeller. Émission préenregistrée le 20 mars 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie vendredi 22 mai de 10h à 11h et réalisée par Michael et Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.